CFM.
De Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.
L'esprit rock, il a du mal à se remettre du passage de Lucky Peterson ici sur le plateau de CFM en direct d'Albi, de la scène nationale. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission spécialement dédiée à l'Albi Jazz Festival. Hein, cette première édition, magnifique, avec tous ces artistes qui passent. Ils sont généreux, ils sont bons, de belles découvertes aussi, notamment là, il y a quelques minutes, ce jeune-là de 12 ans, Enzo Capadona, qui habite à Lille-sur-Tarn, il joue merveilleusement bien de la guitare. Il est juste à côté, on va discuter un tout petit peu avec lui. Mais dans l'immédiat, Madame Jocelyne Deschaux, directrice des médiathèques de l'Albigeois, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Jocelyne. Bonjour à tous.
Ça va ?
Ça va bien. Un peu surtout de piano, après un petit
un
concert
peu de piano,
comme ça.
Non, non,
non,
pas
désolé.
Du tout. Hein, guitare alors.
Non plus.
Flûte à bec, tiens. Hier, on a beaucoup parlé de flûte à bec. Vous avez sûrement fait de la flûte à bec.
J'étais bonne, oui, en son temps.
Ah ouais.
En flûte ténor, mais ça fait très longtemps.
Aujourd'hui, c'est la nuit de la lecture, hein, pour parler de l'actualité du réseau des médiathèques de l'Albigeois.
Oui.
Donc c'est la nuit de la lecture, là aujourd'hui, quatrième édition. Et depuis 16h30, il y a des choses qui
des
se passent.
Des tas de choses qui se passent chez nous.
Par exemple, quoi.
Alors, par exemple, des petites histoires dans le noir qui viennent de se terminer. C'était à 16h30, effectivement, à Malric. Mm-hmm. On a également à Cantepo quelque chose qui vient de se terminer. C'était le Bling Book, quand on modifie, on dessine et on fait transformer ces dessins en petites histoires. Et puis, bien sûr, il y aura tout à l'heure à la fois des histoires dans le noir et une visite d'une roulotte à Saint-Juéry. Quelque chose qui sera vraiment exceptionnel. Et puis, l'apéro jazz à Amalric, à Pierre Amalric, à 17h30, pour rencontrer justement des textes et de la musique,
et de la musique
du
aussi,
saxo.
Ouais.
Ça va être super.
On parle de réseau des médiathèques de l'Albigeois. Vous venez d'en citer quelques-unes. Hein. Quand on parle de réseau, c'est combien de médiathèques là sur l'Albigeois ?
C'est 4 médiathèques. C'est la médiathèque Pierre Amalric, donc d'Albi, la médiathèque de Cantepo, la médiathèque de Lescure et la médiathèque de Saint-Juéry, sans oublier le Médiabus qui se promène dans les quartiers et dans différentes communes également du Grand Albigeois.
Ah, donc ça veut dire qu'avec le Médiabus, c'est vous amenez une sélection d'œuvres, de bouquins,
voilà.
Et les gens peuvent venir emprunter sur le même principe que
exactement.
En physique à la médiathèque, c'est
exactement,
ça.
Exactement, voilà.
Donc c'est la mobilité de la médiathèque.
Voilà, c'est le nomadisme.
Les médiathèques ont un peu modifié leur fonctionnement au fil des années aussi pour s'adapter à on va dire
aux
nouveaux usages. Et d'ailleurs, il y a un projet très intéressant, un projet scientifique, culturel, éducatif et social qui a été élaboré non seulement avec plusieurs partenaires, mais aussi avec les collectivités qui définit un peu les orientations et les actions des médiathèques sur 5 ans. Donc
absolument.
Là, ça démarre en 2018 et ça se poursuit jusqu'en 2022.
Oui.
Vous pouvez nous faire un bref résumé de ce projet-là. Donc, l'acronyme, c'est PSCES.
Voilà, donc le projet scientifique, culturel, éducatif et social donc du réseau des médiathèques, en gros, c'est de nous donner des axes pour travailler pendant 5 ans. En gros, c'est pouvoir mieux desservir le public et les publics, plus exactement, puisque voilà, notre mission, c'est vraiment d'ouvrir les médiathèques à tous les publics, d'aller les chercher quand ils ne viennent pas spontanément dans les médiathèques. Donc, c'est un des gros axes pour nous. Au niveau des médiathèques également, il y aura aussi des réaménagements, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les usages changent. Et pour s'adapter aux usages, il faut aussi savoir bouger les murs, bouger les meubles, changer un peu la vision des choses. Et on sait également ce qu'on va essayer de faire. Et puis, bien sûr, le numérique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une médiathèque sans numérique. Donc voilà, on a déjà bien commencé, mais il y a encore aussi pas mal de travail à faire.
S'agissant du numérique, j'ai vu sur le site internet de la médiathèque, en tout cas du réseau des médiathèques de l'Albigeois, qu'on pouvait emprunter des livres numériques.
Oui, absolument. On peut télécharger des livres numériques. Donc vous avez votre propre matériel, que ce soit une liseuse, une tablette ou ce que vous voulez. Et vous pouvez télécharger des titres sur notre catalogue de textes numérique. Donc ça, c'est effectif depuis octobre dernier, donc c'est tout récent. Et franchement, ça marche bien. On a de plus en plus de demandes. Il faut nous faire tout simplement la demande après l'inscription dans les médiathèques, nous faire la demande par mail et on vous donne le branchement, entre guillemets. Ça
donc les codes et la démarche à suivre pour pouvoir télécharger ces œuvres numériques. Là.
Voilà, on vous donne un code et puis vous pouvez trouver, comme la VOD pour la vidéo à la demande, c'est exactement le même principe.
En introduction de cette émission, à 17h, j'ai dit à ceux qui nous écoutaient et qui nous écoutent toujours, je l'espère, que la médiathèque d'Albi n'en était pas une comme les autres, parce que la médiathèque Pierre Amalric, dans le centre-ville d'Albi, on est juste à côté, elle est juste à côté là, du grand théâtre de la scène nationale d'Albi, c'est sur l'avenue Charles de Gaulle,
oui,
c'est ça.
Oui.
Ouais. Donc je disais qu'elle n'était pas tout à fait comme les autres, parce qu'elle fait partie des 52 bibliothèques municipales françaises qui sont classées. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique, Jocelyne Deschaux?
Ça veut dire que cette bibliothèque-là a un fonds patrimonial particulièrement important. Un fonds patrimonial, c'est des livres anciens, rares et précieux. Il se trouve qu'à Albi, nous avons hérité de la bibliothèque du chapitre cathédral, donc qui a été confisquée lors de la Révolution française pour la mettre sous la main de la nation, c'est-à-dire à la disposition de tous les citoyens. Et donc, dans ces collections, il y avait par exemple les manuscrits qui ont été enluminés à la cathédrale au XIIe siècle, qui sont absolument d'une splendeur sans nom, et également la fameuse Mapamundi d'Albi, oui. Manuscrit qui date du 8e siècle, l'une des deux plus anciennes cartes du monde, qui représente donc le monde de manière globale et non abstraite.
Comment se fait-il qu'un document comme celui-là, qui est d'une valeur historique et patrimoniale très importante, reste, c'est pas du tout un jugement quelque sorte, mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que la Mapamundi, donc qui est l'une des plus anciennes représentations de notre monde, est conservée à la médiathèque Amalric d'Albi.
Parce que donc elle a été réalisée ou bien à la cathédrale d'Albi, ou bien elle a été réalisée ailleurs, mais elle a été acheminée à la cathédrale d'Albi par volonté probablement des évêques d'Albi. Et qu'elle a été conservée dans la bibliothèque du chapitre cathédral jusqu'à la 1789, la Révolution française et les confiscations. Et c'est comme ça que sa présence s'explique chez nous. On est une bibliothèque, c'est pas non plus complètement idiot qu'un livre de ce genre, de cette qualité-là, figure dans nos collections.
Après, j'imagine que c'est pas le livre qu'on peut emprunter, ramener chez soi, qu'on ne le consulte pas non plus.
Ça sera pas possible.
On le consulte pas non plus, il est pas en consultation libre non plus.
Non, il n'est pas en consultation libre, mais par contre, vous pouvez tous le voir sur le site du réseau des médiathèques de l'Albigeois, puisqu'il a été numérisé en très haute qualité. Et il y a également tout un dossier de compréhension, parce que malheureusement, c'est un document absolument extraordinaire, mais il a besoin de médiation, d'explication, parce que comme ça, on ne le comprend pas trop. C'est une représentation du monde, ça ressemble pas au monde
siècle,
qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Il faut l'orienter, c'est-à-dire le disposer différemment de ce qu'il est, etc. Et il y a plein d'explications à donner, mais je peux vous en parler 2 heures si vous voulez. Mais
on prendra les 2 heures qu'il faut sur CFM Radio, volontiers. Parce que c'est très intéressant d'en parler de ce type de documents qui font partie du patrimoine, non seulement
absolument.
Local, mais aussi historique, en dehors de la Mapamundi.
Et du patrimoine mondial, puisqu'il a été enregistré au registre mémoire du monde de l'UNESCO en 2015.
C'est peut-être pour ça qu'Albi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, non?
C'était après.
Ah, mince.
C'est deuxième classement, mais Albi est l'une des rares villes en France en dehors de Paris qui est deux classements à l'UNESCO, ce qui est quand même pas mal.
Ah ben ouais. En dehors de cette Mapamundi dans les trésors de la médiathèque Pierre Amalric, j'ai vu qu'il y avait une édition originale de
Nostradamus. C'est ça?
Oui.
Oui, absolument. Wow. Il se trouve que, alors là, c'est par le hasard un petit peu des collections. On a un certain nombre d'ouvrages, 12 000 à peu près, qui ont appartenu à Rochegude, qui localement est quelqu'un de très important. C'était un amiral du temps, d'ailleurs, de la Pérouse, qui a parcouru les mers et qui a constitué lui-même une bibliothèque personnelle extrêmement intéressante et extrêmement fouillée. Dès qu'il y avait quelque chose de nouveau au XVIIIe siècle dans le domaine du livre, on pouvait être sûr qu'il l'avait dans sa bibliothèque. Et donc, effectivement, il y a également une des éditions de Nostradamus.
Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme documents de grande valeur, manuscrits, parchemins ou que sais-je encore?
On a un manuscrit qui a été réalisé à Venise en 1459 et enluminé de la main probablement de Giovanni Bellini lui-même, qui est l'un des premiers maîtres de la Renaissance italienne. C'est quelque chose d'absolument somptueux. On a donc les fameux manuscrits de la cathédrale dont je parlais tout à l'heure, donc qui datent de la fin du XIe, début du XIIe siècle. On a franchement beaucoup de choses très intéressantes aussi de l'époque, des livres imprimés, des reliures également intéressantes, enfin... une belle collection.
Vous, c'est pas chez vous qu'il y a une édition originale de Don Quichotte ?
Si, aussi. C'est, alors, c'est pas une édition originale, c'est une édition de 1605, une édition qui a, je crois qu'il y a deux exemplaires conservés aujourd'hui dans le monde.
Pour finir, Jocelyne Deschaux, directrice du réseau des médiathèques de l'Albigeois, en préparant cette émission, j'ai vu que vous étiez de formation archiviste et paléographe et conservatrice en chef des bibliothèques, mais également que vous faisiez partie d'un réseau dont je voudrais qu'on parle maintenant, c'est le comité français du Bouclier Bleu, un réseau international. Vous expliquer ce que c'est ?
Alors, je suis effectivement présidente de ce qui s'appelle maintenant le Bouclier Bleu France. C'est le relais en France du Blue Shield International qui essaye de protéger, de sauvegarder le patrimoine culturel au moment des conflits armés. Donc ça, c'est plutôt pour la partie internationale. En France, comme nous avons la chance de ne pas avoir de conflits armés à l'intérieur de nos territoires, le Bouclier Bleu France se consacre à la protection du patrimoine en cas de sinistre. Et donc, il s'agit à la fois de protéger en amont le patrimoine culturel, donc c'est les musées, les archives, les bibliothèques, les monuments historiques, les jardins, etc. Donc, faire toute une série de processus en amont pour essayer d'éviter le sinistre et de minimiser au maximum les impacts sur le patrimoine. Et puis ensuite, également, travailler sur ce qu'on appelle la résilience. On fait d'ailleurs un colloque le 29 janvier à Paris, à l'auditorium de l'Institut national du patrimoine, sur rebondir après le drame, résilience, patrimoine et résilience. On a tous dans la tête, bien sûr, le terrible incendie de Notre-Dame en avril dernier. Voilà, comment est-ce qu'après, les populations arrivent à rebondir, à reprendre confiance en eux quand un élément capital de leur patrimoine a été très abîmé, voire complètement détruit.
Donc vous intervenez aussi donc en cas de sinistre lorsqu'il y a un incendie, une inondation, oui, pour pouvoir soit mettre à l'abri le plus rapidement possible. Donc c'est ce type de procédure-là que vous mettez en place.
Exactement.
Avec les bibliothécaires ou archivistes et autres.
Voilà, et conservateurs de musées, etc. Oui, ouais, tout à fait.
Qui fait partie de ce comité du coup ?
On a à peu près 200 membres individuels au niveau français et surtout on a plus de 90 institutions, collectivités qui sont également membres et c'est ça qui est vraiment très important puisque ça montre que les collectivités, les mairies, les agglomérations, les départements s'attachent de plus en plus à cette question de la protection du patrimoine en cas de sinistre.
Au niveau international, toujours pour parler du bouclier bleu, il y a des guerres actuellement, ou en tout cas une sorte de guerre, on va appeler ça comme ça, au Mali, où il y a les manuscrits de Tombouctou. Je pense à ce qui s'est passé en Syrie avec un patrimoine, qu'il soit bâti ou écrit. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé au niveau du bouclier bleu sur de telles guerres ou est-ce que vous avez un exemple des actions ailleurs ?
Il y a eu des interventions, effectivement, notamment au Mali. Il y a eu également en Syrie, on a l'un de nos administrateurs qui est très présent en Syrie pour ce genre de choses. Alors, bien sûr, le bouclier bleu va aider à protéger. Hein. Il n'est pas sous les bombes non plus pour empêcher les bombes de tomber. Mais voilà, c'est toute une question de sensibilisation parce que si on ne fait rien en amont, c'est trop tard le jour où ça arrive, si vous voulez. Donc, c'est surtout sur ce plan-là qu'on essaye de travailler.
Est-ce que c'est votre formation d'archiviste paléographe qui a orienté le fait que vous soyez la directrice du réseau des médiathèques de l'Albigeois, étant donné qu'il y a ce côté aussi de conservation
À fait. C'est vrai que j'étais particulièrement intéressée par le fonds d'Albi, mais aussi tout ce qui est réseau, véritablement, ce qu'on appelle la lecture publique. Et on parlait tout à l'heure du fait qu'Albi est une bibliothèque classée. Ça veut dire que l'État paye un conservateur pour être responsable de ce fonds. Et donc, c'est moi le conservateur d'État actuellement à la bibliothèque d'Albi.
Vous dites conservateur et pas conservatrice.
Bon oui, par habitude.
Ah. C'est juste pour savoir.
On peut dire conservatrice aussi,
oui,
très volontiers.
Moi je dis conservatrice, moi. Je me disais, est-ce que c'est moi qui... Je ne sais pas.
Merci c'est vous beaucoup. Le chef ici.
Oui. Merci beaucoup, Madame Jocelyne Deschaux. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice du réseau des médiathèques de l'Albigeois. Merci d'être passée sur CFM.
Merci.
Et on va reprendre contact pour faire 2 heures d'émission sur la map.
Très volontiers.
Zone d'écoute, fréquence, adresse des studios et contact antenne. Contact antenne. CFM. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.